Bonjour, c'est Radio Diwa, la radio du Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. C'est nos lycéens du lycée du Diwa, du même nom donc, qui sont sur l'antenne. Nous sommes en direct, il est 12h10 précisément, après ce stage de RFI, ce flash de RFI, pardon, nous nous retrouvons comme tous les 15 jours, de midi 10 à 13h pour parler de l'actualité. C'est comme c'est ça la classe, c'est déjà le numéro 10. Et dans cette émission, ce sont les lycéens qui s'emparent de l'actualité et qui donnent leur avis, comme chaque quinzaine. Trois sujets aujourd'hui. Nous terminons cette émission par un sujet dans l'air du temps, depuis quelque temps déjà, c'est le cas de le dire. Tablettes numériques, ordinateurs, téléphones portables, sommes-nous tous dépendants de ces petits, plus ou moins petits objets qui ont envahi notre vie quotidienne? Une vie sans portable est-elle seulement envisageable aujourd'hui? On verra si la génération des 15-18 ans, c'est à peu près la génération à laquelle correspond de ceux qui sont autour de la table, eh bien fait partie de ceux qui sont accros au moment même où Jimmy est en train de cacher son portable. Il est en train de répondre d'une certaine manière à ma question.
Non, de montrer mettant à couper le téléphone.
D'accord, Jimmy. Je vais vous présenter dans 2 minutes. Vous l'avez compris, il y a au moins Jimmy à côté de moi, mais ils sont quelques autres comme d'habitude. Dans un deuxième temps, donc au milieu de cette émission, on va dire vers 12h30, nous parlerons eh bien de ce qui occupe l'actualité depuis quelques semaines déjà, les bonnets rouges, puis les bonnets blancs, les bonnets verts, enfin toutes les couleurs sont là, le ras-le-bol anti-taxe, anti-fiscalité, peut-être anti-gouvernement de manière un peu générale. On pourra peut-être évoquer aussi les sifflets lors du 14 juillet que M. Hollande a dû subir. Est-ce que les lycéens sont choqués par un président de la République ainsi hué? Est-ce que c'est la France tout entière qui est huée en tant que représentant de l'État et chef de l'État qu'il est? Ou est-ce que c'est une simple expression de la démocratie? Et est-ce qu'on paye trop d'impôts en France? Qu'est-ce que les lycéens en pensent? Alors pour l'instant, ils ne sont pas directement concernés, mais enfin, ils ont des familles qui doivent payer des impôts pour la plupart d'entre eux. Est-ce que c'est la démocratie qui veut ça? Payer des impôts, c'est être solidaire? Ou est-ce que, quand trop c'est trop, est-ce que c'est normal que les gens aillent dans la rue pour protester? Il y aurait un petit recul, mais qui a été un peu embrouillé hier dans les médias, entre M. Hérault et son ministre, M. Martin de l'écologie, sur la fameuse écotaxe. Va-t-elle être supprimée, suspendue? On va voir ça. Et on en parle donc tout à l'heure vers 12h30. Mais on va commencer cette émission à 12h12 sur Radio Diwa, dans ses salles à classe, par un premier sujet. Plus grave, plus lourd. Prochainement, le gouvernement, on vous a annoncé ce sujet il y a 15 jours, va présenter un nouveau projet de loi sur l'euthanasie. L'euthanasie active, l'euthanasie passive. Est-ce qu'un être humain peut décider du moment de sa mort lorsqu'il est dans un état de souffrance absolue à l'hôpital? Est-ce que c'est au médecin de pratiquer l'euthanasie, qu'on appelle dans ce cas-là active? Est-ce qu'un médecin peut, doit, pense qu'il doit donner la mort? Est-ce que c'est la famille? Où est-ce qu'on doit laisser faire, entre guillemets, la nature, avec beaucoup d'hypocrisie aussi, puisqu'on sait bien qu'il y a des traitements qui, à défaut de tuer la personne, atténuent ses souffrances et la font mourir un peu plus vite quand même. Donc voilà, c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est celui-là par lequel on va commencer, après avoir dit quand même bonjour à tous ceux qui sont autour de cette table, à la technique, aux manettes, mais aussi aux échanges. Nous avons évidemment Monsieur Joris, bonjour.
Bonjour.
Jean-Raphaël, qui est l'assistant technique, mais bientôt titulaire, car la formation de Joris est parfaite. Bonjour Jean-Raphaël.
Bonjour.
À ses côtés, je ne le vois pas, il est caché par le micro, mais c'est évidemment Monsieur Arthur.
Bonjour à tous.
Bonjour Arthur. Anne-Sophie.
Bonjour.
Dont c'est le retour, elle nous a fait faux bond exceptionnellement la dernière quinzaine. Ulysse.
Bonjour.
Le spécialiste des coups de gueule. Puis Adrien.
Bonjour.
Spécialiste du code de la route. Vous savez qu'en général, il nous fait un peu faux bond aujourd'hui. Une nouvelle leçon.
Oui, juste après.
Ce sont des rendez-vous fixes. Jimmy, vous l'avez compris. Bonjour Jimmy.
Bonjour à tous.
Et puis nos deux dernières secondes, Magda et Mademoiselle Sophie.
Bonjour.
Bonjour à toutes les deux. C'était, je les ai présentées deux concerts. Elles ont répondu deux concerts. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce sujet-là? Est-ce que ce mot-là, ça vous parle? Est-ce que ça fait partie, évidemment, quand on a votre âge, encore que ce soit certainement plus compliqué que ça, que ça dépend de chacun et de ses histoires personnelles, mais la mort paraît très 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 loin, et heureusement. Mais est-ce que c'est des sujets auxquels vous êtes déjà intéressé? Jimmy lève le doigt très haut. Est-ce que tu penses qu'un être humain a le droit de choisir sa mort? Est-ce qu'on doit l'aider? C'est le principe de l'euthanasie. Certains pays, comme la Belgique, par exemple, ont des lois beaucoup plus facilitant davantage, on va dire, ce choix-là.
Moi, je suis totalement pour, parce que j'estime que une personne dans un cas d'une très grave maladie, ou même une personne étant très âgée, elle peut avoir des difficultés, par exemple, à bouger, ou alors avoir tellement d'aide sur elle que je trouve que la personne peut se sentir indignée et perdre sa dignité. Elle peut aussi très bien demander, donc si elle le souhaite, donc de son souhait de, ben, je pense, de mourir, parce que ça peut tout simplement lui donner une mort paisible et apaisée au lieu d'une mort...
Parce qu'elle souffre aussi peut-être de sa maladie.
Oui, parce qu'elle souffre de sa maladie. Ben, par exemple, elle est très mal, elle ne peut plus bouger, elle ne peut plus rien faire. Donc à ce moment-là, en fait, on n'est même plus un être vivant, on est juste une loque qui ne peut plus rien faire d'autre que juste parler et écouter ce qu'on lui dit.
Qui doit décider de la mort? Est-ce que c'est la personne elle-même qui doit s'administrer, si elle le peut, ce n'est pas toujours possible, le médicament ou le traitement, ou est-ce que c'est le médecin qui doit l'accompagner ou l'aider?
C'est le médecin qui doit l'accompagner.
Bah. Alors que répondez-vous aux médecins qui sont contre et qui pensent que, par déontologie, sont là pour soigner, pour accompagner la souffrance, enfin dans l'autre sens, pour l'amenuiser, mais certainement pas pour être la personne qui pose l'acte final en quelque sorte? Oui, Adrien?
Mais il y a vraiment des cas différents, vu qu'il y a toutes sortes de maladies, enfin voilà, qui peuvent aboutir à l'euthanasie, notamment par exemple une personne qui est dans le coma. Bah, la personne, c'est pas elle qui va forcément décider de sa mort.
Par définition, oui.
Voilà, donc... moi, je pense que ça serait bien que ça soit la famille, justement, qui se concerte, que chacun apporte son opinion sur ce que voulait ou ce que veut la personne. Voilà. Parce que faire vivre une personne par mécaniquement, c'est un peu la maintenir dans un frigo, quoi, sans ouais. qu'elle bouge. Quoi.
Est-ce que c'est toujours facile, possible pour la famille aussi
de
prendre ce genre de décision? Oui, Ulysse?
Ouais, moi je pense que pour les médecins de faire ce genre d'action d'euthanasie, je pense que c'est très très difficile parce que les médecins durant leurs études ils font un serment, il me semble que c'est le serment d'Hippocrate, qui fait qu'ils se dévouent pour assurer la survie des patients, et donc je pense que en tant que médecin c'est très très dur de prendre la décision et surtout de le faire, de donner la mort à un patient pour lequel souvent on a mis des semaines, des mois à essayer qu'il tienne. Et je pense que c'est vraiment pour le corps médical quelque chose qui est vraiment très compliqué.
Et pour rebondir sur ton terme, qu'ils tiennent, est-ce que le but c'est qu'ils tiennent à tout prix, au prix d'être le terme est provocateur, mais un légume ou quelqu'un en mort cérébrale ou qui est en souffrance, c'est encore plus grave puisque là on ressent quelque chose. Mais est-ce que le but est de tenir jusqu'au bout?
Et ben, c'est la question des soins palliatifs.
Non, oui. Mais là en fait, bien c'est une question de survie physique. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il ne peut plus rien faire, donc ce serait plutôt une question de survie morale, quoi, qu'il parte en pensant qu'il n'a pas tout perdu, quoi. Il a peut-être perdu ses membres, mais il a gardé sa dignité. Enfin, je sais pas, c'est pareil. Ou comme quoi les médecins ne doivent pas la pratiquer. Je suis pas d'accord. Dans certains pays, comme les États-Unis, ils ont un dispositif qu'ils appellent suicide assisté. En fait, ils mettent la personne dans un environnement de suicide. Donc, par exemple, ils lui donnent tout ce qu'il peut avoir à disposition pour se donner la mort. Et ils lui laissent et lui disent, ben, comme ça, c'est pas eux qui donnent l'euthanasie, mais c'est lui qui suicide. Mais ça, c'est encore pire parce qu'il va mourir en stressant, parce que c'est quand même pas facile de se donner la mort. Alors que si c'était un médecin qui le ferait, il serait apaisé et en plus il serait sûr de le faire à tout
prix. Effectivement, la différence entre ce qu'on appelle l'euthanasie active, comme je disais en introduction, et passive. L'euthanasie active, a priori, c'est lorsque c'est le malade lui-même, dans la mesure où il peut le faire physiquement, qui s'administre le médicament fatal, on va dire, alors que l'euthanasie passive, c'est le médecin lui-même qui intervient. Vous pouvez vous-même intervenir. Vous savez que le standard de Radio Diwa vous est ouvert. Je vous en rappelle le numéro. Armez-vous d'un papier, d'un crayon. Je vais prendre le soin désormais d'aller doucement. Donc pour nous joindre, à tout instant, jusqu'à 13h, c'est le 0952 368 531. Je vous le répète, 0952 368 531. Appel non surtaxé. Et vous aurez le multi-tâche standardiste. Le jeune Joris qui vous répondra au téléphone et puis qui nous transmettra votre identité. Et vous pourrez donc intervenir et répondre à nos lycéens et lycéennes. Une lycéenne intervient justement à l'instant. Elle lève le doigt comme à l'école. C'est Anne-Sophie.
Je vais juste rajouter en fait que le problème surtout c'était pour les patients qui sont inconscients. Parce que depuis tout à l'heure, tu parlais des cas de suicide assisté et tout, mais là... C'est pas vraiment le souci parce que la personne elle est consciente, donc elle peut décider de plus prendre les médicaments qui la font tenir en vie et tout. Et le problème c'est plus les personnes qui sont inconscientes, et parce qu'à ce moment-là c'est soit à la famille de décider, soit lui-même avant l'accident ou avant la maladie d'avoir mentionné s'il voulait
comme un testament par exemple. ouais. mentionner si on veut.
Ouais, voilà.
Non, mais je suis d'accord. Oui. Que
dans le cas où il m'arrive quelque chose de grave, pardon Jimmy, j'autorise ma famille. Mais le problème, c'est que ça, c'est une autorisation qui n'est que intra-familiale et qui n'a pas de loi juridique. C'est bien tout le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des cas comme ça, hein, de rares en France, mais de maris ou de femmes qui ont fait en sorte que l'époux meure parce qu'ils s'étaient jurés l'un l'autre de faire ce geste-là, même s'il est difficile à faire, on imagine. Et donc la législation est un peu floue en France parce que c'est d'une certaine manière un meurtre, mais évidemment, là, le mot est choquant à l'envers, compte tenu des circonstances et du fait que c'est aussi un geste d'amour. En tout cas, c'est comme ça. Donner la mort comme geste d'amour, ça peut paraître paradoxal, mais c'est comme ça que c'est expliqué par les gens concernés. Oui, Jimmy.
J'ai lu un truc comme quoi dans les pays où l'euthanasie était autorisée, si le patient le met sur papier, c'est considéré comme juridique et totalement légal. C'est-à-dire que si sur papier, qu'il signe lui-même...
Pas en France,
c'est pas autorisé. Non, dans les pays où c'est autorisé, je ne sais plus lequel c'est exactement, mais on a le droit... la personne, si elle est mal, elle a le droit de signer un papier comme quoi elle a envie d'être euthanasiée dans le cas où elle sera inconsciente. Et donc là, c'est totalement légal et la famille peut très bien demander à l'euthanasie.
Alors après, évidemment, il y a la peur aussi de certains, dans la société au sens large du terme, ça concerne un peu tout le monde, c'est pas que le problème des médecins, d'ailleurs c'est un peu le sujet, c'est évidemment la préoccupation des médecins, mais c'est de tous les êtres humains concernés par ce sujet-là, c'est qu'il y a des abus, c'est qu'il y a des médecins qui, je vais être provocateur là aussi, mais qui pour libérer un certain nombre de lits, je suis jusqu'au boutiste là, mais décident tout simplement pour raison pratique, parce qu'ils estiment que la personne est définitivement... réduite à néant, qu'elles peuvent faire le fameux geste. La famille, même chose. À partir de quel degré de souffrance, comment on évalue ça? C'est ça qui est très difficile dans ce débat-là. Et puis surtout, en général, dans les pays où il y a une législation, tu en parlais, Jimmy, notamment en Belgique, plus proche de nous que les États-Unis, c'est jamais une seule personne qui prend la décision. Il y a tout un comité, plusieurs médecins, la famille, bien sûr. Et évidemment, une seule personne, ça serait un risque incommensurable d'abus. Oui. On voudrait se débarrasser de son vieil oncle, pardon, Magda, qui est très fortuné.
Qui a plus de sous sur le compte bancaire,
c'est
voilà.
C'est ça. Ça nous arrangerait qu'il s'en aille. Magda, pardon.
Moi, je suis pour et contre, en fait, pour l'euthanasie, parce que le geste d'euthanasier une personne peut faire penser aussi aux actes qu'on a fait pendant la Seconde Guerre mondiale.
Enfin, là, tu y vas fort.
Ça fait penser
point Godwin.
moi, ça m'a fait penser à ça, parce qu'on tue des personnes. Et même pour les personnes inconscientes, on ne sait pas.
C'était quand même pas pour les mêmes raisons.
Oui.
C'était des raisons idéologiques et absolument de racisme, de xénophobie, d'antisémitisme en l'occurrence. Oui, d'accord.
C'est le
fait même de... Pour toi, c'est tuer, c'est une forme de meurtre alors. Donc tu es plutôt contre quand tu dis je suis à la fois pour et contre. J'entends dans ce que tu dis carrément contre, non?
Après, je ne me suis pas exprimé pourquoi je suis pour. Mais...
Pour parodier une émission d'RMC, là, carrément brunée, toi tu es carrément contre. Non,
non.
Dis-moi, je me trompe peut-être.
Après,
alors quelle est la partie pour? Parce que là, en disant ça, tu nous.
Après, je trouve ça bien aussi de laisser le choix aux personnes qui veulent mourir. Parce que ça peut faire, une sorte de délivrance pour eux.
Mmh. Donc c'est un peu paradoxal. T'es un peu tiraillé entre les deux,
ouais,
en fait.
C'est ça.
Adrien et Jimmy ?
Moi, ce que je pense, donc je parle pour le cas d'une personne qui serait consciente, c'est autoriser l'euthanasie, mais justement qu'on développe justement ces soins palliatifs, comme l'a cité Ulysse, et justement d'accompagner la personne dans la mort, justement avec le rôle de la famille qui peut aider justement à accompagner cette personne vers la mort, et qu'il y ait aussi un médecin qui a un suivi justement psychologique de cette personne et qui puisse l'accompagner progressivement vers l'étape de la mort, quoi.
Les soins palliatifs, tout le monde sait ce que c'est autour de la table?
Surtout pour les auditeurs également.
Pour les auditeurs, évidemment, quelqu'un veut expliquer ce que c'est? Il n'y en a probablement pas assez en France, c'est effectivement quelque chose de très important. Oui, Ulysse?
Il me semble que les soins palliatifs, ce sont donc souvent des secteurs spécialisés d'hôpitaux qui ont pour but d'accompagner les malades dont ils ont une très faible chance de survivre, d'être accompagnés dans des soins pour réduire leur douleur. La famille est prise en compte dans ces processus-là, et donc ce sont des processus pour accompagner les patients vers leur mort. Donc on pourrait presque parler dans les soins palliatifs d'euthanasie passive, même si ce n'est pas vraiment le cas, ce n'est pas dit comme ça. Mais je pense, pour moi, qu'il faudrait développer ce genre d'initiative et ce genre de centre, même si, encore une fois, c'est beaucoup une question de moyens.
C'est effectivement donc des personnes qui sont en fin de vie, avec un accompagnement aussi de la famille, ce qui est très important, qui se déroule dans ces soins palliatifs, et un soulagement dans la mesure du possible. Et là encore, quelle est la mesure du possible? C'est-à-dire qu'on peut soulager avec des médicaments, avec des piqûres, mais à un moment donné, quand la souffrance est tellement forte, ça n'a peut-être plus trop de sens, on devient un légume, comme on disait tout à l'heure. Sophie et Jimmy, alors que Monsieur Théo nous a rejoint.
Moi, je suis d'accord avec Magda. Je suis pour et contre, parce que si la personne, elle souffre, après, c'est pas très bien.
Si elle souffre, c'est-à-dire, donc tu es plutôt pour, avec cet argument-là.
Je sais pas trop, c'est un peu mélangé.
Ce serait une sorte de soulagement pour la personne si elle le désire.
Ouais.
Certains disent on n'a pas choisi de naître. Et finalement, le seul acte... Alors, c'est la philosophie, ouais, ça, déjà, vrai. Mais c'est important aussi, la philosophie. Surtout quand on parle de la vie et de la mort, c'est à peu près toute la philosophie. Et de la condition humaine et du sens de la vie. Le seul acte qu'on peut choisir, celui de quitter la Terre. En adulte, consentant. Et le problème, dans le consentant, justement, lorsqu'on parle de soins palliatifs et d'impossibilité physique ou mentale... de se donner la mort et de choisir vraiment cette issue-là au moment où on l'a décidé. Oui, Jimmy ?
Pour en revenir à ce que disait Magda, en fait, c'est pas tout le monde qui a fait ces actions pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est uniquement les nazis. Et qui ont fait ça, enfin, ils ont fait passer ça pour quelque chose de bien en éliminant, en fait, les paraplégiques et les handicapés mentaux. En les euthanasiant, on disait que c'était pour leur bien. Donc c'est vrai que c'est une question d'abus, mais bon, après, je pense pas que l'homme refera cette erreur en euthanasiant des personnes en masse comme ça. Je crois que c'était 150 000 personnes, à peu près, qui avaient euthanasié.
C'est de toute façon pas la même époque, évidemment, donc difficilement comparable. Magda, tu veux quelque chose à répondre à ça? C'est toi qui as employé cet argument tout à l'heure.
Oui, en entendant Jimmy, je crois, j'ai oublié aussi de dire un peu la moitié de mon argument. C'est en Allemagne, l'euthanasie est interdite. Ouais. Parce que, en fait, ça fait référence au nazisme et ils ont honte maintenant de faire cet acte-là.
Donc une décision par rapport à l'histoire, c'est-à-dire que... Oui, d'accord.
Je crois qu'ils appellent ça même mise à mort, en fait.
Oui, ils n'appellent plus ça euthanasie parce que ça leur fait trop référence à ce qui s'est passé sous les nazis. Oui. Ils disent une
en plus,
mort.
Il y a le mot nazi dans euthanasie.
Ce qui n'a rien à voir, il faut le savoir, c'est pas vrai. Du tout la même origine.
Non.
Non, mais c'était mise à mort passive ou un truc comme ça que ça voulait dire dans leur langue. C'est un mot compliqué en allemand, mais c'est ça que ça veut dire. C'est
plus euthanasie. D'accord. Théo, non, tu arrives en cours de débat, mais... Comme tu es un garçon sérieux, tu as préparé le débat et le sujet à l'avance. Que penses-tu de l'euthanasie ?
Je pense que l'euthanasie, ça peut être une bonne chose. Après, c'est vrai que quand on donne des médicaments, et la personne qui prend ces médicaments, oui, elle va être transformée en légume. Et après, la question se pose, c'est à qui va décider quelle personne va utiliser l'euthanasie ou pas ? Parce que soit c'est la personne qui veut qu'on utilise l'euthanasie sur elle, soit c'est la famille. Donc quand la personne a perdu la tête, je pense qu'il faut mieux se rapporter à la famille.
En tout cas, moi je vous promets, je ne lis pas dans les boules de cristal, mais un débat, encore un, j'ai envie de dire, dans la société actuelle, probablement agité à venir. Alors si c'est prévu dans les cartons, mais est-ce que ça va être mis en parenthèse avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas, on va voir. Mais si M. Hollande remet ça sur la table, parce que voilà encore un sujet... d'une manière différente, mais après clivant, le mariage pour tous, très clivant, oui, c'est le mot. Merci. Adrien et Ulysse ?
Jean-Raphaël, je crois, qui voulait intervenir.
Oui, Jean-Raphaël, pardon.
Moi, je pense qu'il faudrait un premier avis des médecins sur le niveau de santé du patient et qu'en dernier recours, ce soit la famille qui en fonction de cet avis, prenne la décision.
La famille et le patient, s'il est conscient, parce que après, sinon
oui,
si le
patient est conscient...
Si on arrive et qu'on lui fait, vous allez être euthanasié parce que votre famille l'a décidé,
bien sûr, c'est le patient qui doit choisir.
Alors le médecin n'est jamais totalement à la place du patient et pour évaluer la douleur, mais c'est quand même un spécialiste. Et c'est vrai que la médecine arrive à soulager beaucoup, 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 beaucoup de douleurs. Après, là encore, quelle est la limite d'eux ? Il y a forcément des limites et la médecine ne peut pas tout faire. Oui, Arthur ?
Mais voilà, mais dans soulager la personne, mais pour la faire tenir quoi ? Un mois de plus, voire deux mois de plus, tout en...
C'est ça le débat. Ouais.
Voilà, et que la personne reste encore... Elle souffre, elle est soumise à des,
des souffrances terribles.
Ouais, voilà, des souffrances terribles. Elle a des radios.
L'agonie, ça s'appelle l'agonie quand on est dans ce genre de sujet-là. Malheureusement, les soins palliatifs.
Des tests, tout ça, et dans quelle mesure, quoi. Je trouve ça. Je pense que le médecin, c'est lui qui a fait des études et il étudie un certain cas, donc la certaine personne, en disant, il se dit très bien que même si on va lui administrer certains soins. En plus, ça va peut-être pas changer et que la personne tiendra un mois et puis ça sera fini. Donc moi, je pense qu'il faut que le médecin prenne sa responsabilité et aille voir le patient en lui disant C'est soit on vous fait...
Alors peut-être pas un seul médecin, comme on dit tout à l'heure.
Voilà,
l'équipe.
Oui,
l'équipe, forcément.
Oui, l'équipe, bien sûr. Allez voir le patient en lui disant, c'est soit vous, on vous administre d'autres soins et vous allez, en lui disant les conséquences, vous allez souffrir, ça va être fatigant. Et on n'est pas trop sûr de ce qu'on va faire si vous allez vraiment tenir un certain temps. Soit on vous laisse dans votre cas critique à mourir peut-être. Enfin, moi, c'est déjà arrivé à quelqu'un que je connaissais. Et du coup, ils ont fait ça et la personne elle a déjà souffert très fortement auparavant et s'est dit non, j'ai pas envie de continuer là-dedans. Donc, elle a préféré mettre fin à ses jours.
D'accord. Le standard vous est ouvert, on vous le rappelle, si vous avez un avis sur la question. Des témoignages personnels peut-être, même si c'est effectivement forcément un peu douloureux ce genre de choses, mais on est là aussi pour être précis et concret. Si vous avez été confronté à cette question-là, n'hésitez pas à nous appeler 0952 368 531, 0952 368 531 pour les dernières minutes sur ce débat. Quelqu'un d'autre voulait intervenir, Adrien ?
Oui, donc pour... si on maintient une personne justement par des machines, etc., des poumons artificiels, etc., et que sans ces machines, elle ne peut pas vivre, faudrait pas que ça prenne après des tournures négatives, genre une grand-mère très très riche qui rembourse, etc.
Ça leur fait l'oncle, mais la grand-mère
et
aussi.
Et puis, dès qu'elle a plus d'argent sur le compte, en gros, pour la famille, ça peut dire qu'elle sert à rien, du coup, on débranche la machine et puis voilà.
Il faut des garde-fous, c'est pour ça qu'on parlait d'équipe.
Oui,
faut pas que
voilà.
Soit une seule personne, qui,
ouais.
Notamment celle qui est en premier sur l'héritage, qui décide,
ça soit,
évidemment.
Réglementé.
Évidemment. Et la famille est dans sa plus large exception et le personnel médical. Oui, on va peut-être terminer sur ce sujet avec Arthur. Oui.
Mais en même temps, c'est difficile à dire, mais pour la famille, si la personne meurt, ce sera peut-être plus facile. Enfin, je veux pas le dire comme ça, mais
c'est aussi un soulagement pour la famille.
Voilà,
malheureusement, quand
c'est
des cas très lourds, bien
parce
sûr. C'est pour tout le monde. C'est un
voilà,
c'est terrible à dire, mais c'est souvent comme ça.
La famille va essayer d'accompagner le malade. Durant son traitement et tout ça, et c'est quand même fatigant.
Il y a beaucoup de culpabilité aussi, de
voilà.
Ne pas être là assez souvent, de ne pas s'en occuper.
Il faut réussir à s'en occuper, à être là, à l'accompagner et tout ça, et ça fait un certain soulagement.
Bon, merci à tous. On va peut-être clore sur ce sujet-là. Il est 12h32, il est largement temps de passer à notre sujet numéro 2. Je vais faire un très mauvais jeu de mots, mais tant pis, j'assume. Vu le sujet qu'on vient de traiter, on va demander aux auditeurs de se réveiller. Et de ne pas faire les morts, et de ne pas hésiter donc à intervenir au 0952 368 531. Peut-on rire de tout ? C'est peut-être un sujet qu'on abordera. Il faut peut-être, certains disent d'ailleurs, rire surtout de la mort, parce que finalement, si ce n'est pas de la mort qu'on rit, de quoi rit-on d'une certaine façon ? Mais bon, c'est facile à dire. Deuxième sujet donc, plus léger, mais enfin, pas tant que ça, parce que quand même, ça occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup les médias et les rues depuis quelques semaines. Cette espèce de révolte de bonnets rouges, blancs, jaunes, alors c'est les restaurateurs, c'est les ambulanciers, je crois, ça a commencé évidemment en Bretagne avec l'écotaxe, à peu près maintenant tous les corps de métier s'y mettent, en trouvant que les assureurs aussi, encore dernièrement, eh bien on taxe trop les Français de manière générale et certaines professions de manière particulière, donc l'impôt est-il toujours juste par définition ? C'est l'idée même de l'impôt, ou est-ce qu'il y a un ras-le-bol fiscal tout à fait compréhensible ? Et est-ce que ça justifie quand même les casses qu'on a eues il y a quelques semaines en France, notamment de ces fameux portiques ? Ulysse et puis Jimmy.
Oui, alors moi d'abord, je voudrais noter.
Et Jean-Raphaël.
Sur l'histoire des bonnets rouges, de la lutte contre les écotaxes, j'aimerais pointer la chose bizarre chez les Bretons, qui est de manifester contre l'écotaxe, qui est une taxe, donc quelque chose qui va rentrer dans les caisses de l'État, et à la fois de manifester pour garder les financements sur la politique agricole commune de l'Europe. Et l'Europe est financée par l'État, il faut bien le savoir.
On n'est pas encore dans la rubrique coup de cœur, coup de gueule, mais je sens que Ulysse prend de l'avance avec les Bretons. Dans la rubrique coup de gueule.
C'est différent. Non, donc je pense que vraiment, pour moi, une totale contradiction entre manifester pour ne pas payer d'impôts, mais bon, on n'aime pas payer d'impôts, mais on a quand même bien recevoir les redistributions sociales, les aides, etc. Donc pour moi, moi je suis très favorable à l'impôt. Je pense qu'il est indispensable et que, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen en 1789, qui a dit que l'État et la société en général protègent chaque individu, et donc il y a une police, et que, entre autres, à l'époque c'était beaucoup plus simple, pour cela, tout citoyen doit participer proportionnellement ses revenus à l'effort du peuple. Et donc pour moi, je pense que l'impôt est indispensable, doit être plus progressif. Et je pense que l'annonce faite par Jean-Marc Ayrault hier de réformer en profondeur la fiscalité française est une bonne idée si elle va dans un sens qui serait pour moi beaucoup plus progressif, moins important pour les plus pauvres et beaucoup plus important et beaucoup plus progressif pour les tranches les plus hautes. Donc, et beaucoup plus taxer le capital et beaucoup plus taxer les revenus financiers que les ménages les plus
donc
faibles.
Donc il y a quand même une compréhension de ta part de ce ras-de-bol, parce que tu dis si tu es en train de dire quand même que c'est pas tout à fait juste, qu'il faudrait que ce soit plus progressif, que ça touche pas forcément.
Pas du tout pour
l'écotaxe,
je suis très favorable à l'écotaxe.
Tu n'es pas d'accord avec ceux qui manifestent.
Voilà.
Mais globalement, tu penses que l'impôt pourrait être amélioré dans sa distribution.
Mais je suis
sa réception, on va dire.
Voilà, je suis très très favorable, très très généralement à l'impôt. Voilà.
C'est surtout les classes moyennes là qui en ce moment sont en train de se révolter entre guillemets, parce qu'elles
ont
l'impression,
faut pas exagérer non
entre
plus,
guillemets, hein. J'ai dit entre guillemets, Ulysse, mais qui ont l'impression, peut-être pas qu'une impression, que c'est toujours un peu les mêmes qui payent. Alors ça, évidemment, chacun trouve que son impôt est trop fort, mais bon, il y a des gens en France, il faut le savoir, vous le savez peut-être pas, qui ne payent pas d'impôts, hein, pour des raisons financières, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez de revenus. Certains pays d'ailleurs ont instauré des impôts symboliques, c'est-à-dire que ces gens-là payent 2 euros par mois à la limite, mais tout le monde paye un impôt, c'est aussi une tactique. Et effectivement, qui on va toucher, de quel porte-monnaie on va aller voir en général, sont les classes moyennes, parce que les plus pauvres n'en payent pas. Les plus riches en payent, mais certains trouvent pas assez encore. Alors eux, évidemment, trouvent que c'est trop et que ça bloque l'économie et la liberté de l'économie et les entreprises. Et bien, au milieu, il y a le plus grand nombre, ceux qui sont ni riches ni pauvres, qu'on appelle les classes moyennes, et qui sont quand même un peu en train de trouver que trop c'est trop, parce qu'à la fin du mois, il reste plus grand-chose une fois qu'on a payé les impôts, les assurances et tout ça. Jimmy, as-tu des témoignages? Est-ce que, sans forcément parler de ta vie privée, mais tu as des gens autour de toi, des amis de la famille qui trouvent qu'ils payent trop d'impôts, des adultes, puisqu'effectivement, vous, pour l'instant, vous êtes épargné?
Non, mais en fait, je suis assez d'accord avec Ulysse, donc comme quoi l'impôt est obligatoire et qu'on doit tous le payer. Mais je ne suis pas d'accord à un certain niveau, c'est que, en fait,
n'est pas le cas, hein, pardon de le rappeler, mais tout le monde ne paye pas d'impôts.
Oui, non, mais enfin, que c'est normal qu'on paye des impôts parce que voilà, on est en temps de crise, donc peut-être que d'accord, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est en temps de crise et du coup, ils rajoutent beaucoup de taxes et beaucoup trop de taxes afin d'essayer de renflouer en quelque sorte les
caisses de
l'État. Voilà, c'est ça. Les caisses de l'État, mais je trouve ça pas forcément bien parce qu'au final, il met tout d'un coup. Alors que s'il mettait ça, une taxe, comme ça, une année, les gens s'y habitueraient, il la paieraient, mais réduire d'un autre côté le prix de quelque chose, essayer de rendre ça de manière égale pour tous. Parce que, par exemple, là, il y a eu notamment une taxe qui a été faite sur l'équitation. Car c'est un des trois premiers sports pratiqués par les Français. Donc ça, à part signifier que...
L'équitation, c'est pas équitable.
Non, mais enfin, c'est... Mis à part signifier qu'il veut qu'on paye pour enflouer les caisses de l'État, enfin, là, je vois pas vraiment l'intérêt propre et simple de remettre des soins dessus. Enfin, je comprends pas.
D'accord. Jean-Raphaël, JR dans le western.
Pour les plus intimes.
Je pense que l'impôt...
Pour les amateurs de Dallas, au choix. C'est un peu vieux pour vous, ça.
Je pense que l'impôt, c'est une assez bonne chose, mais qu'il est très mal utilisé. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui profitent de ça et qui ne payent pas d'impôt, qui vivent justement...
Et puis aussi des gens qui payent, ce que tu dis est très juste, et qui sont d'accord pour payer, mais qui trouvent que elles n'ont pas l'impression, ces personnes-là n'ont pas l'impression que c'est distribué de manière efficace, puisque c'est vrai que la société ne va pas très bien, c'est clair, déjà depuis quelques années, mais en ce moment notamment. Oui, Théo et Adrien.
Après, on dit qu'on est dans une période de crise, et si on rajoute des impôts et que après le salaire n'augmente pas, c'est sûr que le chômage il va augmenter. Après, moi, je suis ni contre ni pour, parce que.
On va te marier avec Magda.
Parce que, en fait.
Tout à l'heure, n'était ni pour ni contre pour l'euthanasie. Pardon, j'arrête de t'interrompre.
Parce qu'en fait, y a des personnes qui devraient payer des impôts. Il y a même des riches, des personnes qui ont de l'argent, qui vont même aller faire un compte en Suisse pour ne pas payer des impôts. Donc moi, je pense qu'eux, il faudrait leur mettre déjà un impôt. Après, ceux qui sont, on va dire, de classe moyenne, mais qui sont un peu plus en difficulté, on peut leur mettre des impôts, mais peut-être moins. Il faudrait faire en fonction peut-être aussi des personnes.
Mmh. Est-ce que vous pensez, je te donne la parole Adrien et Anne-Sophie aussi, vous pouvez continuer à parler de ça ou élargir comme vous voulez, Que les huées du président de la République sont liées à ça ou pas du tout? Et est-ce que ça vous a choqué, c'est un président de la République, le 14 juillet, double symbole, soit huées sur les Champs-Élysées?
On parle du 11 novembre.
Vous avez... On parle du 11 juillet.
Oui, deux fois 14 juillet.
14 juillet. C'est-à-dire qu'il fait tellement froid, il commence à neiger sur le Diois.
On se croit rien 14 juillet.
On voudrait être le 14 juillet, pardon, tu as raison, c'était le 11 novembre, enfin c'est le même type de symbole. Adrien, Sophie ?
Moi, je comprends tout à fait le ras-le-bol des Bretons, parce que déjà, les salaires sont en baisse, notamment j'ai des anecdotes là-dessus. Bon, qui concerne ma vie privée, donc je n'en parlerai pas, mais bon...
Tu peux en parler sans forcément citer
oui,
personne.
Oui, donc il y a des salaires qui... Par exemple, mon père a vu son salaire baisser de 300 euros, bim, d'un coup. Aussi, on a donc...
Dans le privé ou dans le public ?
Dans le public, oui.
Dans le public ?
Je crois, oui. Oui.
Ça change
c'est,
tout,
c'est,
hein.
C'est étonnant, mais bon, t'es sûr de ça ? Parce qu'un salaire qui baisse, qui augmente pas, ça, les enseignants savent quelque chose, entre autres, mais il n'y a pas que les fonctionnaires, en général.
Non,
ça
non,
fait
non,
des années
non, non, pardon, c'est dans le privé, si.
Voilà,
c'est
oui, privé, ça oui. Semble un peu plus logique.
Voilà,
comme
et
ça,
ensuite, c'est pas vu mieux, que les Bretons, mais... certains Bretons voient leur... pardon. Voient leur salaire baisser, ils veulent, François Hollande veut rajouter une taxe, et quand on voit que Jean-Marc Ayrault offre une prime assez impressionnante selon moi à tous ces, toutes les personnes qui l'entourent, je crois même que c'est une très très grosse prime, quand on voit ça, on voit des inégalités quand même dans, notamment au niveau des revenus,
c'est en particulier, mais...
Enfin, ils en ont marre, quoi. Ils en peuvent plus, quoi. Je comprends tout à fait.
Par les enveloppes là, qui sont données en liquide dans certains ministères. A priori, c'est fini, mais ça devait déjà être fini à l'époque de M. Guéant.
C'est
continué.
L'histoire de Guéant, ça.
C'est ça. A priori, c'est moins pratiqué ou plutôt pratiqué. Après, bon, par définition, le liquide. D'ailleurs, c'est un peu lié aux impôts aussi, aux gens qui trichent.
Oui.
Et dans le privé, par définition, parce que dans le public, c'est plus compliqué, sauf à un certain niveau d'État. Il y a aussi des détournements, bien sûr, de fonds publics. Mais voilà, il y a des gens qui ne déclarent pas tout. Il y avait un reportage il n'y a pas longtemps à la télévision, il y en a régulièrement, je crois que c'était dans Capital sur la 6, de
puis,
certains commerçants qui ont tendance à mettre des sous dans la caisse
que...
sans faire de facture.
Il faut dire qu'en Bretagne, aussi,
moins d'impôts.
On ne paye pas les autoroutes. Il y a pas...
Ouais.
On paye pas les autoroutes, donc pour eux c'est un peu la tradition bretonne, donc voilà, ils veulent pas commencer à payer quelque chose en Bretagne.
Vous savez que bientôt d'ailleurs les concessions d'autoroutes, je parle des autoroutes, qui ont été accordées à du privé, le groupe Vinci notamment et d'autres selon les endroits en France, arrivent à terme, à échéance, c'est-à-dire que là le gouvernement va pouvoir bientôt choisir de renouveler la concession ou de récupérer dans le giron public, alors ça veut dire entretien et donc frais aussi... pour nos impôts, mais ça veut dire en même temps que les péages, l'argent des péages, c'est pour l'État, donc ça c'est un débat aussi, un certain avait beaucoup râlé à l'époque où M. Villepin, je crois, avait vendu les autoroutes publiques à des organismes privés. Sur M. Hollande en général, non, vous n'avez pas d'avis sur le fait qu'il était Jimmy, peut-être, et
en fait,
Magda.
Je
on passera au sujet 3, parce que... Et Anne-Sophie, pardon, je l'ai oublié. Vous me faites court tous les trois, si c'est possible, qu'on épargne les portables, et qu'on puisse faire notre troisième sujet aussi. Vas-y, Jimmy.
Je comprends le ras-le-bol des gens, mais enfin, je trouve ça inadmissible qu'il fasse ça le 11 novembre. Et ils peuvent huer le président de la République n'importe quand, enfin, à n'importe quel moment, mais le 11 novembre, c'est quand même quelque
il
chose de sacré.
Il représentait la France, c'est ça
mais,
ouais.
Mais en fait, le président de la République, déjà, représente la France. Donc ça, c'est vraiment... Enfin, je comprends pas pourquoi, déjà, on arrive devant lui à lui dire qu'il est mauvais. On peut lui laisser savoir, mais pas vraiment lui dire et le huer comme ça, à ce point-là. Et puis, surtout pas le 11 novembre, qui est quand même un jour sacré de l'armistice avec l'Allemagne. Autant bien pour la France que pour l'Allemagne, et c'est...
D'accord.
C'est pas compréhensible.
Magda ?
Le jour où on honore nos morts, soit comme ça.
C'est exactement ce que je voulais dire.
Bon, finalement, on va te marier avec Jimmy. Bon, j'arrête mes bêtises. Tu as le choix. Anne-Sophie ?
Non, c'est bon. C'est bon,
ouais. Ouais, moi, je voulais dire que le 11 novembre...
Anne-Sophie, laisse la main à Ulysse.
Le 11 novembre,
qui doit bientôt nous quitter, donc...
Ouais, le 11 novembre, il y avait une grosse histoire, sans doute vous en avez entendu parler. Le journal télévisé de TF1 de 20h a décalé les huées de Hollande pour que dans son montage, on voit les huées de M. Hollande pendant qu'il sort de sa voiture, alors que ces huées étaient quelques secondes avant. Montage fortuit, erreur fortuite pour TF1. J'ai du mal à y accepter. La course à l'audimat est vraiment désastreuse
deuxième coup de
pour l'information.
C'est Yann Barthès dans le petit journal qui est habitué du genre qui a démontré cela. J'ai entendu sur RMC, pour parler de nos expériences personnelles, un des messieurs, la fameuse banderole Hollande démission, qui circule depuis quelques temps, il n'avait quand même pas beaucoup, c'était dans les grandes gueules sur RMC, d'arguments, à part qu'il fallait destituer Hollande comme si on n'était pas en démocratie et qu'on était en royauté, qu'il fallait faire un coup d'État. Après, le programme qu'il proposait lui derrière me paraissait un peu limité. Alors, je ne dis pas qu'il est représentatif d'eux, mais c'est celui qui a l'initiative de Hollande d'émission.
Monsieur Hollande,
il travaille tout seul pour son compte, mais c'est
Monsieur
un peu
Hollande a quand même une perte de popularité assez impressionnante.
Ça, ouais. C'est évident. Les sondages.
La 5ème République le sauve. Les institutions de la 5ème République
dire ça
le
comme
sauve
ça,
comme le gouvernement. Dans la 4ème, le gouvernement serait tombé 250 fois depuis.
Alors, vous payez trop d'impôts, vous n'en payez pas assez, sait-on jamais. Vous trouvez normal de les payer. 0952 368 531. Et vous êtes accro au portable. C'est notre sujet 3. On va terminer par ce sujet-là, comme prévu avec un petit peu de retard. Eh bien, témoignez aussi, toujours, au 0952 368 531. On parle souvent des jeunes, en particulier, qui sont accros aux tablettes numériques, aux tablettes de toutes sortes, aux ordinateurs, aux téléphones portables en particulier. Est-ce que vous pensez que c'est une dépendance totale? Est-ce que vous pourriez, si on faisait un petit sondage, là, à main levée, qui pourrait se passer de portable? Il y a parfois des tests qui sont faits pendant 48 heures. J'ai pas pris longtemps. Alors là, la majorité des doigts se lèvent. Pendant une semaine. Là, il y en a beaucoup moins. Une semaine encore? Non, moins. Et se passer de portable tout court? Ah, alors là, il n'y a plus personne. Bon, en même temps, c'est peut-être un peu logique. Alors pourquoi on est à ce moment-là dépendant de ces petits objets magiques? Oui, Adrien.
Donc moi, juste avant que je parte...
Lui aussi. Ulysse et Adrien partent ensemble. Je ne sais pas ce qu'ils vont fomenter. Ils vont préparer le CCC numéro 11, c'est ça, leur conscience professionnelle.
Non, c'est juste que par rapport à ce qui se passe... que vous avez évoqué, justement, pas de téléphone portable, qu'on est accro, etc. Il y a une série qui s'appelle, je crois, Révolution, où justement, il n'y a plus d'électricité du tout sur la planète, et on voit comment le peuple arrive à se débrouiller sans électricité, donc pas de téléphone, rien, et ça a l'air assez intéressant. Voilà, mon petit...
Merci Adrien,
intervention,
à la prochaine fois. Plusieurs expériences ont été faites comme ça, 15 jours sans télé, 15 jours sans ordinateur. Bon, on y arrive, mais c'est visiblement plus compliqué pour les gens de votre génération. Non, Anne-Sophie?
Si, juste pour montrer qu'on est complètement dépendant en France, eh ben, il y a 74 millions d'abonnements, alors qu'on n'est que 65 millions de personnes. Donc ça fait que les personnes ont toujours besoin de leur portable. Et je pense que nous, c'est plus pour pouvoir parler aux autres. Mais par exemple, les gens qui travaillent, pour rester en connexion avec leur, par exemple, pour leur boulot et tout, ça peut leur servir. Et du coup, ne serait-ce que pour regarder ses mails et tout, maintenant, c'est plus simple de regarder sur son portable que d'allumer l'ordinateur... Donc quoi, du coup, je pense que le portable, il sert pas seulement à appeler.
C'est la facilité, c'est un gain de temps pour toi.
Ouais. Et que du coup, on n'est pas dépendant seulement pour appeler et envoyer des SMS, mais aussi pour plein d'autres choses qui font en plus les portables maintenant.
Arthur, accro au portable ou pas du tout? Arthur change de place pour récupérer un micro titulaire, si je puis dire.
Eh ben moi, ça fait pas longtemps que j'ai un téléphone portable. Je l'ai depuis septembre.
Incroyable. Quel âge as-tu?
15 ans.
15 ans, c'est ton premier portable. Je pense que oui. Tu es un cas unique en France.
Non, moi aussi.
Non, il y en a plusieurs autour. Parce que vous savez, maintenant, les enfants à 9-10 ans, ils ont déjà un portable. Pour rassurer les parents, souvent, on dit. Hein, c'est l'argument qu'on entend. Des propres parents qui leur achètent.
Alors, ça, c'est. Moi, je trouve ça vraiment débile. Clairement.
Avoir les joindre n'importe où. Quoi.
Bon. Non, mais voilà, avoir un téléphone à.
C'est du flicage, en fait.
Voilà, un téléphone à 10 ans, c'est. À 10 ans, t'es quoi? T'es en CM2, en 6ème.
Justement, je crois qu'on entend des interférences. J'espère que ça ne passe pas à l'antenne d'un portable. Si. Quelqu'un a dû leur pardon pour ces petits bruits. C'est pas fait exprès. Hein. C'est pas pour mettre la forme au service du fond, mais on ne va pas illustrer par des bruits parasites. Pardon, Arthur.
Non, mais je trouve que bah ouais, ça fait peut-être 2 mois et demi que j'ai un téléphone, mais bon.
Et comment tu le vis, Arthur? Cette découverte exceptionnelle de cet objet nouveau. Et tu n'avais pas demandé à tes parents avant ou ils n'ont pas voulu? Ou
si,
c'est pas indiscret de demander ça?
Bah. J'avais essayé d'en avoir un pour la 3ème, mais puis après je me suis dit que quand même c'est pas mal d'en avoir un en seconde parce qu'en plus je suis en internat.
Mm-hmm. Est-ce que la plupart des camarades en 3ème en avaient pas de portable? J'imagine que oui.
Non, quand même, la plupart en avaient, ouais. On devait être une minorité à pas en avoir.
D'accord.
Et du coup, en internat, je trouve que c'est beaucoup plus facile pour pouvoir contacter ses parents ou quoi que ce soit au lieu d'aller utiliser une cabine de téléphone qui est dans l'autre internat ou quoi que ce soit. Enfin...
Mm-hmm. Magda?
Bah, moi je trouve que la société d'aujourd'hui rend l'utilisation du portable.
Elle se marre parce que le présentateur s'est pris un micro dans la figure en faisant un mauvais geste, pardon. Vous savez tout, on ne vous cache rien. Mais ça va, je suis encore en vie, je rassure ma famille. Et mes amis, j'en ai 2 ou 3. Pardon Magda, ça fait 2 fois que je t'interromps, tu vas m'en vouloir.
Et du coup, moi je trouve que la société d'aujourd'hui, elle rend les téléphones, les ordi, la télé indispensables. Déjà, rien, on voit ça en cours parce que, enfin, ils nous demandent de faire des devoirs sur ordinateur. Ou même, aujourd'hui, on a besoin. Enfin, je sais pas comment ils faisaient avant, mais
C'est ça qu'on a du mal à imaginer, que vous avez du mal à imaginer, parce que moi je suis un tout petit peu plus âgé que vous, et j'ai vécu sans portable quand j'avais votre âge, ça n'existait pas, ou c'était des trucs énormes, là, vous savez, qui ressemblaient à des talkie-walkie. Et donc on vivait, oui, je vous assure, il y a eu une vie, alors nos parents, grands-parents encore pire, encore mieux, sans portable. Mais moi-même qui étais à cheval entre les deux générations, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis que ça serait peut-être compliqué, alors, je suis loin d'être accro, mais de s'en séparer deux, trois jours, je suis un peu comme vous, mais peut-être qu'un mois, deux mois, ça serait difficile. On envoie des mails aussi, on envoie des courriels professionnels. C'est vrai que c'est plus rapide que les mails ordinateurs, qu'on n'est pas toujours chez soi, enfin, c'est sûr. Après, est-ce qu'on gagne? Si on faisait le bilan de tout ce qu'on gagne dans la journée ou à la fin du mois grâce au téléphone portable, est-ce qu'on a vraiment gagné des heures et des heures et de l'efficacité? C'est à voir. Oui, Sophie?
C'est un moyen plus simple de communication.
Oui, ça c'est sûr, simplicité, efficacité. Tout nous à CCC.
Au lieu d'envoyer des lettres.
Simplicité, efficacité, c'est
d'abord
ça.
Qu'elle arrive.
Et rapidité.
On est en train de vous préparer le petit. Là, juste après vous avoir quitté, entre 13h et 13h30, on va vous préparer un générique du tonnerre et du diable grâce à nos deux techniciens, Joris et JR. On va essayer de vous faire des voix, des effets. Enfin, vous allez voir, on va vous faire un truc, un jingle exceptionnel CCC à plusieurs voix. Jimmy?
Ben, en fait, c'est aussi une sorte de désorganisation de notre part, parce que surtout nous, les jeunes, par exemple, avant, quand, je sais pas, mais vous avez vécu ça peut-être, quand vous devez vous rencontrer, par exemple, pour une fête ou une journée aller chez un ami.
Boum, on appelait ça à l'époque.
Voilà, bon, une boum.
Vous appelez ça une teuf, une fête.
Une soirée, bon voilà. Mais, non, mais en fait, avant, vous étiez obligé de prévoir ça longtemps avant. Maintenant, s'il faut, le matin...
Le téléphone existait quand même, hein.
Non, mais fin,
téléphone classique.
Vous dites, fin,
toi, tu envoies sur Facebook, tu vas dire, ou sur un réseau social,
non? Non, mais n'importe où. Par exemple, je peux très bien, un soir, envoyer un message à une de mes amies. Je peux venir chez toi demain soir. Elle demande à sa mère, et c'est très facile d'aller le lendemain soir, alors qu'avant, ça n'aurait pas été possible.
Quelle différence avec le téléphone? Si tu appelles chez sa mère ou chez elle, non, mais... et... là, je comprends pas trop.
Non, mais s'il n'y a pas de téléphone, on est obligé d'envoyer une lettre ou de prévoir ça à l'avance.
D'accord, tu parles de téléphone du tout, là.
Oui,
on était sur le téléphone portable.
C'est pour ça que c'est indispensable maintenant.
Avant le téléphone portable, il y a quand même le téléphone. On peut remonter à avant le téléphone, mais effectivement, là, c'était plus embêtant et plus long. On est d'accord, Jimmy. Théo?
Moi d'abord, je trouve que c'est complètement, comme Arthur il disait, que c'est complètement débile qu'on donne des portables à des, je sais pas, des gamins qui sont en 6e ou en 5e. Parce que,
Des pré-ados, pardon.
Parce qu'ils vont faire quoi? Ils vont écouter la musique et ils vont s'envoyer des messages à des copains des fois qui voient tous les jours, alors que être en internat, moi j'ai eu juste parce que j'étais en internat, sinon j'en aurais jamais eu. Et moi je trouve que c'est pareil que la télé. La télé, je l'ai eu jusqu'à ce que je sois en 5e quand c'est passé au numérique. Sinon, j'ai pas eu la télé. Il y a tout le monde qui te dit: ah, mais comment tu fais pour pas vivre sans télé? Alors que je le vis très bien.
C'est parce que t'habites à la campagne.
À l'inverse, ça rend pas forcément débile. Il y a quelqu'un qui vient de me dire en aparté, mais on va pas cacher qui c'est, qu'il avait son téléphone en 6e le premier. Donc vous voyez, il y a quand même des marges, hein, entre toi, Arthur, première fois en seconde, et quelqu'un d'autre du même âge.
Il habite à Revesse des Brousses.
On a dit qu'on n'allait pas forcément dire qui c'est. C'est peut-être pas un indice pour tout le monde,
ça.
C'est pas très
moi.
Connu. C'est un village, ça, j'imagine, que tu viens de citer, la sonore bizarre.
C'est souvent les mamans qui ont les portables aussi.
Oh, arrêtez, c'est pas l'énigme du Père Fora.
Toujours Fort-Boyard.
C'est pas parce qu'un village est petit qu'il n'y a pas de technologie. Merci.
Voilà, c'est la preuve.
Oui, 300.
Bon, d'autres choses sur le portable. Et puis peut-être qu'on va passer au coup de cœur Google, parce qu'il est déjà 12h52 et 51 secondes sur Radio Diwa. Le ciel est hésitant entre la neige, le soleil et je ne sais pas le temps qu'il fait, si, car on ne vous oublie pas, vous êtes dimanche soir, car nous sommes en direct, et c'est mercredi, et c'est 12h53, et c'est le 20 novembre, mais vous avez dimanche prochain, donc, et un dimanche sur deux, en alternance avec l'excellente émission de monsieur Ulysse, je ne me trompe pas, et... ou c'est celle de Joris, j'ai un doute.
Non, c'est la mienne.
C'est la tienne, pardon. Voilà, Ulysse, c'est un autre moment. Donc un dimanche sur deux, c'est l'émission de Joris et d'Adrien, et un dimanche sur deux, c'est la rediff. Donc si vous êtes dimanche, eh bien, je ne sais pas le temps qu'il fait, mais a priori un peu meilleur, car je crois qu'on annonce une météo meilleure. Et pas une médéo. La médéo nous a lâchement abandonné, je crois qu'il ne participera plus à CCC, ou en tout cas de manière ponctuelle, en guest, comme on dit en anglais, en invité vedette. Le portable, on a terminé, donc JR pour conclure.
Donc oui, juste pour revenir sur les portables. Après, quand on commence à avoir une autonomie, quand on est à l'internat, ça reste très utile. Aussi, par exemple, quand on part en montagne, surtout pour les sports nature, ça peut être très utile pour appeler les secours ou quoi que ce soit. Donc,
faut savoir qu'en montagne, il n'y a pas toujours du réseau aussi. Donc, il y a d'autres moyens déjà effectifs. Tu fais des signalements efficaces.
Balises.
Oui, voilà, des balises ou des GPS qui peuvent être localisés à distance. Voilà.
Alors à l'internat, quand on est autonome, jusqu'à un certain point quand même, parce que si on appelle papa, maman au portable, c'est que l'autonomie est relative. Mais c'est normal, à votre âge, on a besoin parfois de SOS et de... Vous êtes encore jeunes, vous êtes encore un peu des bébés, j'allais dire, des mais enfants. C'est pas méchant dans ma bouche, encore des enfants. Vous êtes dans un âge hybride entre enfance fleurs. Et adolescence. Des petites fleurs en train de s'épanouir. C'est beau, Jimmy. Jimmy le poète. Et de retour, mais il ne nous avait jamais quitté, pardon. On termine avec les coups de cœur et les coups de gueule, les coups de cœur et les coups de gueule, il faut que j'articule. Est-ce que vous avez des choses à nous dire aujourd'hui? On va commencer par Arthur. Donc dans l'actu de la dernière quinzaine.
Moi j'ai un coup de cœur avec la météo, et non la médéo.
Encore, on avait terminé avec la météo la dernière fois, je sens qu'on va terminer à chaque fois. Mais vas-y, par la météo.
Bah, c'est qu'il commence à neiger, que bah, ça indique qu'on va bientôt pouvoir skier.
Et se battre avec les terminales, avec les boules de neige. Les terminales et les premières.
Et les premières, bien sûr.
Ça plaît beaucoup aux sportifs et aux sports nature en particulier.
Et puis, voilà, ça fait...
plaisir.
Donc, c'était un coup de cœur pour la météo, pour toi, positive. Ceux qui aiment moins la neige trouvent la météo exécrable, mais bon, pas encore tout à fait. Pour l'instant, c'est juste quelques flocons. Oui, Théo.
Moi, j'ai un gros coup de gueule. C'est avec les nouveaux horaires pour les écoles primaires. C'est qu'il y a quand même des enseignants qui ont réussi... qui faisaient pas grève à chaque fois, et ils font grève que pour ça, alors que au contraire, ça leur il y a les journées, moi par exemple mes deux parents ils sont instituteurs, et quand ils reviennent, des fois ils sont vraiment crevés, et donc ça allégerait les journées. Et moi quand j'étais en école primaire, moi le samedi matin j'avais la dictée à chaque fois, et franchement moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée, et je vois pas pourquoi qu'il y ait autant d'enseignants qui soient contre.
Moi j'ai toujours travaillé le samedi matin aussi, la génération d'avant. Mercredi. C'était 5 jours. 4 jours, c'est assez récent.
Moi, ça m'a toujours. Le mercredi, il n'y a jamais eu cours. Bon, si c'était un petit village, il y a petite école. Mais.
Ni le samedi. C'est la semaine de 4 jours, toi.
Non, c'est-à-dire jusqu'en. Si j'ai eu le samedi une année, mais c'est tout. Et sinon, avant, je travaillais jamais le mercredi, que ce soit le matin, l'après-midi ou le samedi, n'importe quand, quoi. Et c'est vrai que le mercredi, ça faisait quand même une journée de coupure entre lundi, mardi.
Ouais, mais après, on spécialise que les coupures, c'est pas terrible.
Le problème, c'est qu'on apprend.
Bah, si, c'est mieux de faire des trucs réguliers. Se lever tous les matins à la même heure.
Par exemple, au niveau des langues, on devrait. Par exemple, l'anglais. Quand on nous dit tout le temps en primaire, ça fait depuis au moins 7 ans que vous faites l'anglais. Alors qu'en primaire, moi, j'ai rien fait.
Ah, c'est pareil.
J'ai presque rien fait.
C'est surtout notre génération, je pense. Voilà. Ça a été le début où on est censé avoir à apprendre l'anglais en primaire. Et,
ouais, c'est pareil, moi, j'ai rien fait.
Peu de primaires l'ont eu, effectivement.
Après, dire bonjour et au revoir.
Et puis, le mercredi, c'est sympa parce que, moi, en tout cas, dans mon cas, à l'école, on faisait de l'art plastique, des matières comme la SVT ou quoi que ce soit. C'était sympa. Et du coup, ensuite, quand on nous a supprimé le mercredi. On faisait plus d'art plastique, surtout qu'on avait un super professeur avec qui, il nous faisait découvrir plein de choses.
Et vous pensez quoi de ces maires, alors qu'ils vont jusqu'à la désobéissance civique, comme on dit maintenant? Est-ce qu'ils ont raison parce qu'ils pensent que c'est pas bon pour les enfants, que c'est trop difficile à organiser, ou est-ce que ils ont tort parce qu'une loi est une loi? Alors c'est pas vraiment une loi, c'est un décret. Je crois qu'il y a des subtilités législatives. Mais enfin bon, c'est quand même une décision du gouvernement, donc ça devrait être appliqué.
Ouais, moi je trouve ça un peu bête parce
qu'ils ont 2 ans. Hein, pour
après comme ça, ils peuvent suivre le rythme du collège. Moi je me souviens quand après en 6e j'avais pas école le mercredi matin et en 5e pour reprendre. Ça a été quand même un sacré.
Alors sur l'organisation peut-être et au mais qui paye, parce que c'est un peu ça. L'argent étant le nerf de la guerre, certains disent qu'ils ont assez d'argent, d'autres pas assez. L'État en a versé une partie aux collectivités, mais apparemment pas assez. Parce que ces activités doivent être financées. En général, ce n'est pas les instituteurs qui, tu dois savoir mieux que moi, puisque qui assurent ces activités, c'est des animateurs, c'est de la danse, je vois des choses bizarres dans ce studio. Mais là, on ne peut pas vous dire. Alors, Théo, il commence à avoir faim, donc tous ces jeunes et présentateurs aussi, d'ailleurs, on ne va pas tarder à vous quitter. Mais on va tenir jusqu'à 13h, au moins, même jusqu'au bout de la nuit, s'il fallait. Non, peut-être pas quand même. Magda. J'aime votre enthousiasme à me répondre. Jusqu'au bout de la nuit, la réponse est non, hein, visiblement, vu les réponses. Rassurez-vous, chers auditeurs, bientôt de la musique, bientôt d'autres programmes, nous allons nous éclipser, car les auditeurs, les chroniqueurs, pardon, sont au bout du rouleau. Peut-être les auditeurs aussi. Magda.
Bah, moi, avant la quatrième, j'ai jamais travaillé ni le mercredi, ni le samedi.
C'est pareil.
Mais je trouve que c'était bien, parce que c'était plus léger. Enfin, pour la primaire et pour mi-collège, je trouve que c'était plus léger, les cours. Et j'ai qu'à partir de la quatrième, du coup, ça me mettait dans le rythme du lycée, ce que j'ai trouvé bien.
Ça coupe la semaine, le mercredi, de pas avoir cours.
D'accord, donc c'est assez partagé quand même. Je vois que c'est comme chez les adultes, les adolescents que vous êtes et qui sortent de l'école quasiment, alors, c'est pas très loin, sont partagés sur ce sujet. Bon, écoutez, peut-être un dernier coup de cœur, coup de gueule, non? On en reste sur l'école, peut-être qu'un jour on en reparlera, ça fait des mois qu'on parle de ça dans les médias. En tout cas, nous vous remercions. Alors, on ne vous remercie pas. totalement, chers auditeurs, car c'est la première fois que nous n'avons point d'appel. N'oubliez pas, c'est toujours le même numéro. Alors notez-le pour la prochaine fois, 0952 368 531, chez vous, en train de manger, pas trop la bouche pleine qu'on puisse vous entendre, dans votre cabinet médical, dans votre mairie, enfin où que vous travaillez, fonctionnaire, médecin, kinésithérapeute, simple parent, camarade, pourquoi pas, intervenez, donnez-nous votre avis et ça fera vivre cette émission. On se retrouve avec trois nouveaux sujets, on vous prépare comme d'habitude des sujets passionnants. Pour le prochain CCC, ça sera dans 15 jours précisément, donc ça doit faire quelque chose comme, on n'a pas nos calendriers sous nos yeux, mais début décembre en tout cas, le 4 décembre, merci Magda. Midi 10, après le flash de RFI, sur Radio Diwa, la Radio Diwa, la radio des Diwa et même au-delà. Bientôt va se profiler la campagne électorale des municipales et je pense qu'on aura là aussi des sujets de conversation passionnants d'ici quelques temps. Excellente après-midi, excellente quinzaine. N'oubliez pas donc la rediff dimanche à 18h. Toujours sur 107.5, si vous êtes arrivé en cours de route ou vous nous avez loupé tout court, eh bien vous avez droit au rattrapage. Il est 13h très exactement sur Radio Diwa. À très bientôt.
À bientôt.